Et pour parler de ce programme, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau sur le plateau, bonjour Ingrid Barra.
Bonjour.
Économiste, spécialiste des finances publiques. À vos côtés, Laurent Moisson. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur, investisseur, cofondateur des Forces françaises de l'industrie, les FFI. Et vous venez de publier aux éditions Les Déviations, Contes et légendes de la réindustrialisation. Et face à vous, un habitué maintenant des experts, bonjour. Olivier Redoulez. Bonjour Olivier, directeur des études de Rex et Code. On va commencer par parler SMIC, salaire minimum, ensemble. Le SMIC qui va être revalorisé de 44 euros brut le 1er juin prochain. C'est la seconde revalorisation après celle automatique du 1er janvier. Le SMIC qui va atteindre près de 1900 euros brut, 1867,71 euros précisément. En 2020, c'était 1540. Ça a augmenté de 22% en 6 ans. Je suis allé voir le salaire médian. Je commence avec vous, Olivier. C'est 10% d'augmentation de salaire médian. Donc, l'une des conséquences de cette hausse, c'est quand même un tassement des salaires pour les classes moyennes. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'économie, cette indexation du salaire minimum interprofessionnel de croissance?
Le problème, c'est que vous l'avez mentionné, c'est le niveau plus que l'indexation. Pour avoir un SMIC beaucoup plus bas, et ça poserait pas de problème. Le sujet, c'est qu'en fait, on a un des niveaux de vie au SMIC qui est le plus proche du niveau de vie médian parmi les pays de l'OCDE.
Ah oui.
Et donc, parce que ce que vous avez dit, effectivement, de la hausse du SMIC qui avait été plus forte que la hausse du salaire médian, c'est encore plus fort quand on prend le revenu disponible, parce qu'entre-temps, on a aussi revalorisé la prime d'activité. Donc, qui s'éteint à peu près au salaire médian, alors qu'elle est
presque 2000 euros aujourd'hui, si on maximise l'ensemble, si on prend le plus haut niveau de la prime d'activité, on est en net à près de 2000 euros, hein, 1900 euros, faut pas exagérer, mais autour de 1900 euros.
C'est là où elle s'éteint, je pense. C'est le point où elle s'éteint, mais de fait, en fait, avec la prime d'activité au SMIC, aujourd'hui, on doit être à 1700 euros. Mais du coup, ça fait beaucoup, parce que, au fond, quand quelqu'un passe, on va dire, du niveau du SMIC s'il rentre sur le marché du travail,
oui,
au niveau du salaire médian qui doit être autour de 1,5 SMIC, ben, il voit son niveau de vie progresser beaucoup moins vite que les efforts qu'il doit générer pour gravir cette échelle. Et ça, ouais, ça pose un vrai problème. En fait, la réalité, c'est que le SMIC, c'est de la redistribution entre travailleurs. On le voit quand, pour les chefs d'entreprise, ben, quand il y a une hausse du SMIC, ça veut dire que ils vont concentrer l'hausse salariale plutôt pour les gens au SMIC, et il va y avoir un peu moins pour les autres. C'est ce qui s'est passé ces dernières années. On a un double mécanisme d'indexation en plus. Alors là, c'est l'inflation, mais quand il n'y a pas trop d'inflation, c'est le pouvoir d'achat qui fait qu'en fait, cette détente des échelles salariales est en fait assez lente à se mettre en place. Alors certes, on a tous en tête le record de gens concernés, de personnes concernées par l'hausse du SMIC en 2022, qui était autour, 2022-2023, autour de 17%. Là, on a diminué, mais quand même, ça reste élevé et ça va être de nouveau élevé. Donc, on a ce tassement des échelles, c'est un vrai sujet, en fait, pour les gains de productivité, pour la valorisation du travail, qu'on parle de valorisation du travail qui
ne fait pas, mais aussi la smicarisation de l'économie, hein.
Pour l'équilibre du marché du travail, la réallocation des ressources et des compétences de l'économie.
Comment on sort de ça, Ingrid Barra? C'est un véritable sujet, non, mais c'est, je veux dire, au-delà de la question économique, c'est un véritable sujet politique qui pèse quand même sur quasiment, je veux dire, il y a la moitié de la population qui est sous salaire médian, donc qui est autour de ce SMIC et demi, quoi.
Alors, peut-être deux observations sur l'indexation du SMIC. La première, c'est que, en fait, on fait une indexation du SMIC parce qu'on veut, en gros, que le niveau du SMIC qu'on a à peu près décidé...
On veut maintenir le niveau de vie des bas salaires.
Alors, pas exactement. C'est là où justement je voulais apporter une nuance. Ah. C'est on veut maintenir en fait la part par rapport à l'économie à partir de laquelle on considère que franchement une entreprise doit pouvoir employer un travailleur et qu'il puisse être productif et que donc voilà, c'est un peu le niveau seuil. Donc c'est très élevé en France, mais la raison pour laquelle on l'indexe, c'est parce qu'on se dit que si l'économie progresse avec une inflation qui peut être à 1, qui peut être à 2, une inflation qui est celle voilà que la Banque centrale un peu gère, eh bien il faut que ce niveau qu'on a fixé il y a quelques années en fait ne change pas en termes réels, en termes de productivité et donc en termes de pouvoir d'achat. Mais il faut bien mettre la productivité avant le pouvoir d'achat, et oui, c'est un peu ça le piège ici, c'est qu'on a une inflation qui est complètement importé, donc voilà, qui vient effectivement du pétrole, et en réalité ça n'a pas, hélas, changé la productivité de l'économie française, et donc on a effectivement ce phénomène qui est pas du tout nouveau. Hein,
ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une décorrélation entre l'augmentation automatique du SMIC et la hausse de la productivité des travailleurs.
C'est exactement ça.
C'est une hausse artificielle finalement.
C'est exactement ça, une indexation
qui était pérenne en réalité pour l'économie.
Bah même on en voit, je veux dire, progressivement les résultats sur l'économie, hein, qui a du mal avec un taux de chômage qui a beaucoup de mal.
Bon. Je voudrais, pardon, rebondir.
Oui, Olivier.
Voilà, je pense, le SMIC et la façon dont il était conçu dans les années 70 ou à ce moment-là, en fait, on était dans une trajectoire, une sorte de vision nationale, en fait, une trajectoire graduelle de croissance un peu infinie et où, dans laquelle, en fait, le sujet, c'était de soutenir la consommation et de faire adhérer ou participer le plus en plus de monde à cette trajectoire. En fait, le monde a changé depuis.
Le monde a changé, oui.
Le SMIC, en fait, n'a pas vraiment changé de ce point de vue-là. Et donc, de fait, on est arrivé à un modèle dans lequel on distribue du pouvoir d'achat avant qu'il soit vraiment créé. Ygritte parlait du fait que, oui, c'est une hausse de prix importé, et sans doute même que ça risque de dégrader la productivité française. En fait, on va sans doute produire au moins cette année, c'est ce sujet du risque de récession, ou au moins de ralentissement de la croissance du PIB avec le choc.
Avec les Moyen-Orient, bien sûr.
En fait, on aura moins à partager, mais comment on va donner l'avantage.
Donc, en fait, le sujet du SMIC, c'est le sujet de tout notre modèle social, Laurent Moisson. C'est qu'on a un modèle social hérité de l'après-guerre, des 30 glorieuses, où il y avait beaucoup de croissance, beaucoup de gains de productivité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et qu'on a du mal à le financer.
Ben, on ne change pas une équipe qui perd. Hein. Donc, on continue dans, finalement, j'allais dire, une approche économique qui est assez stable depuis... Alors, moi, je ne remonte pas à l'après-guerre, mais on va dire... à partir des années 80, où on a une intervention du politique pour faire le bien des salariés en passant au-dessus de la réalité des entreprises. Donc, après, les ajustements se font. Hein. Et les ajustements, c'est quoi ? C'est le chômage de masse. Hein, puisque.
Et on a vu que le chômage était passé au-delà des 8% au premier trimestre.
Il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Hein. Moi, dans mon club, qui est un club d'entrepreneurs, j'ai un certain nombre d'entrepreneurs qui ont des usines dans différents pays. L'arbitrage, il est immédiat. C'est-à-dire que quand vous vendez à l'international, quand vous vendez à des grands groupes qui ont des acheteurs qui vous demandent un certain prix, vos marges, quand vous les perdez parce que vous avez une hausse salariale qui est artificielle, elle est décrétée. C'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas la Suisse, là. La Suisse, si vous voulez, on a des salaires. Moi, je suis pour hein, un SMIC à la Suisse. Très bien, un salaire moyen suisse, c'est formidable. Mais ils ont créé les conditions via des entreprises extrêmement bien positionnées et en faisant confiance aux entrepreneurs et au marché suisse et aux Suisses entre eux, eh ben, ils ont réussi à créer un modèle vertueux qui fait que la confiance donne de l'investissement, donne de la productivité, donne de la performance, donne des grosses marges qui sont redistribuées, notamment, pas uniquement, mais notamment sur la forme de salaire. Nous, on fait pas ça, on micromanage les boîtes, ça crée, on leur donne beaucoup de normes, ça crée un certain nombre de problèmes de marge, on a du mal à augmenter les salaires, alors vous avez l'État qui dit, bah attendez, moi je vais quand même le faire. Mais le paradoxe, je parle devant deux économistes qui me corrigeront si je me plante, mais plus vous montez le SMIC, plus vous augmentez le taux de pauvreté.
Alors, on augmente aussi les allègements de charges. C'est un des sujets, des grands sujets politiques du moment, de tension entre les organisations patronales et Bercy. Il n'y a pas que le salaire minimum qui est indexé sur l'inflation. Il y a aussi les allègements de charges qui sont indexés sur la hausse du SMIC. Et à chaque fois que le SMIC augmente, Olivier Redoulet, c'est l'ensemble des allègements de charges qui augmentent aussi. Et c'est ainsi que nous sommes passés de 50 à 83 milliards d'euros d'allègements de charges en 5 ans seulement. Alors d'un côté, vous avez les chefs d'entreprise qui vous disent « bah oui, mais si vous rabotez ces allègements de charges, c'est une hausse du coût du travail ». Et de l'autre, Bercy qui dit « on ne peut pas continuer comme ça, ad vitam ». Quel est l'avis de Rexecode dans ce
Alors, déjà, je voudrais corriger, en fait, ou préciser, nuancer un chiffre. Cette hausse de 30 milliards, en fait, c'est une hausse nominale. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le taux d'allègement de charges, c'est-à-dire, les allègements, c'est quoi ? C'est une baisse de cotisation. Ce qu'il faut voir,
c'est que. On pourrait expliquer autour du SMIC aujourd'hui, on paye quasiment plus de charges. Les entreprises ne payent quasiment plus de charges et ensuite, ça monte progressivement jusqu'à 3.
Cette baisse de cotisation, en fait, le taux de baisse de cotisation ramené sur la masse salariale, il est à peu près au même niveau aujourd'hui qu'en 2019. En fait, il avait un petit peu augmenté en 2023 parce que, en fait, l'inflation était allée assez vite et donc le temps que les échelles salariales se redéploient. Mais de fait, en fait, ce
ça n'a pas bougé depuis 2019. Non, le dit, c'est la masse salariale qui a augmenté.
Non seulement les paramètres n'ont pas bougé à la hausse, mais surtout ils ont bougé à la baisse parce qu'on a diminué les plafonds d'allègement de charges en 2024 et 2025. Et ensuite, on a un petit peu raboté l'an dernier. Donc, de fait, en fait, les allègements de charges en absolu, leur hausse, elles traduisent surtout celle de hausse salariale. Vous prenez 10% d'une hausse salariale qui augmente, parce que c'est à peu près 11% le taux moyen d'allègement de charges. Vous prenez 11% du masse salariale qui augmente, vous avez un montant qui augmente. Mais ça reflète surtout la hausse de la masse salariale. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est comment ont été conçus ces allègements de charges. En fait, c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé, que les politiques aient trouvé, entre d'un côté un taux normal de cotisation finançant notre dépense sociale très élevé, c'est à peu près 45%, après ça diminue. Ça
bouge. On est parmi les plus hauts de l'OCDE. Hein.
Mais c'est à peu près ça. Et ça, il le faut parce que, on a un modèle social qu'on a promis, que les politiques ont promis, donc du coup,
bien financé.
Et par ailleurs, on veut un SMIC aussi élevé. Et du coup, on s'est retrouvé au fil des années à avoir un taux chargé au SMIC qui était incompatible avec l'emploi. Donc ensuite, on a allégé. C'est comme ça qu'en fait, les allègements de charges ont commencé à partir de 1993 et puis ils ont été, au fur et à mesure, augmentés avec les années. Alors là, effectivement, avec la hausse du SMIC, comme la formule d'allègement de charges est indexée sur le SMIC, il va augmenter pour des gens qui ne vont pas avoir tout de suite une hausse de salaire. Mais la réalité, c'est que dans un certain nombre d'entreprises, il n'y a pas des entreprises où il n'y a que des gens au SMIC et des gens entreprises où il n'y a que des gens qui sont
mais jusqu'à 3 SMIC. Dit Bercy, c'est qu'à 3 SMIC, ils vont bénéficier d'allègements.
Les allègements de charges
sans augmenter
sur les gens
les
qui sont assez élevés, la hausse des allègements va permettre de financer la hausse du SMIC que les entreprises vont devoir financer. Et ça, en fait, c'est un vrai sujet. Si on remonte un petit peu dans le temps, en 2022-2023, où tout le monde crie, il y avait à peu près ce même discours, voilà, les
allègements de charges. Mais oui, c'est à chaque fois le problème, dès qu'il y a beaucoup d'inflation,
etc. Voilà.
Mais qu'il ne faut pas désindexer les allègements de charges.
Mais ce qu'il faut se souvenir, à cette époque-là, on avait été tous surpris positivement par la bonne tenue de l'emploi. Ce n'était pas que de l'apprentissage. Et la réalité, c'est qu'en fait, les entreprises avaient pu à la fois augmenter les salaires au SMIC et maintenir l'emploi parce qu'elles avaient bénéficié de ristournes d'allègements de charges. Alors, c'est pas, y a des entreprises qui en ont peut-être bénéficié alors qu'elles n'étaient pas concernées. Mais de fait, il faut faire, je pense, attention à ne pas vouloir raboter les allègements de charges, parce qu'en fait, certes, on va faire peut-être des économies budgétaires, mais ça va se payer un emploi demain.
Ingrid, vous êtes d'accord avec ça?
Oui et non, mais c'est...
La spécialiste des finances publiques, il y a quand même plus de 80 milliards d'allègements de charges et un déficit absolument majeur.
Il y a tout à fait deux logiques qui s'opposent. J'aurais vu en introduction souligner que c'est un peu le paradoxe d'avoir classé dans le débat public pendant un certain temps et notamment dans le rapport du sénateur Fabien Gay, les allègements de charges comme des dépenses, des aides aux entreprises. Donc là, on y est et donc...
C'est discutable.
Voilà, en sens vraiment. Et c'est vrai que de ces derniers temps, avec cette histoire du SMIC, on voit bien que là, le discours est complètement inverse. Puisqu'il s'agit de dire, oui, évidemment, il faut que les gens qui travaillent à un niveau qui n'est pas mirobolant, qui est au-dessus du SMIC, bref. Et donc, il y a tout ce débat autour du profil de charge, de prélèvement obligatoire sur l'échelle salariale. Et je pense qu'il faut vraiment se pencher là-dessus sur est-ce que c'est une dépense, c'est une recette ? À la fin, effectivement, quand on regarde l'économie au global et en fait les montants que ça représente, évidemment, on est sur quelque chose qui participe de l'équilibre des prélèvements obligatoires. Et donc, à nouveau, l'indexer, c'est donc je reviens à un peu le même paradoxe, si on veut, c'est que dans un modèle pur et parfait où effectivement vous avez un peu de croissance, vous avez un peu d'inflation, tout ça est très très stable, effectivement l'indexation un peu automatique sans y réfléchir est assez naturelle.
Oui.
En revanche, quand vous avez des problèmes de finances publiques, vous avez des problèmes économiques, vous avez des problèmes de modèle social.
Oui, c'est ça. Ça fonctionne mal quand il y a des à-coups, quand il y a des déficits. Sauf que le monde est ainsi fait. Hein, je veux dire, on ne vit pas sur une linéarité parfaite de la croissance.
C'est un des grands enjeux, et je pense que c'est vraiment important que ce soit pris comme tel. C'est-à-dire que c'est un enjeu qui est au centre des prélèvements obligatoires, de ce que les entreprises peuvent supporter, avec effectivement des effets qui peuvent être très pervers de redistribution interne en fonction de si on se gêne ou si on ne se gêne pas, parce qu'effectivement l'économie n'est pas un bloc unique avec une entreprise, ils ont tous la même échelle. Donc voilà, il y a des effets qui peuvent être assez pervers, et donc de regarder en fait le grand éléphant dans la pièce de cette histoire, qui est le reste des dépenses publiques. En fait, qui est effectivement quelles dépenses, quelle trajectoire budgétaire, quel prélèvement obligatoire on assume de bien vouloir faire porter.
On voit qu'on arrive dans un système d'une complexité quand même.
Pour aller dans le
nocif pour l'économie, quoi.
Pour aller dans le sens Ygritte, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les allègements de charges sont des moindres recettes, mais ces recettes, elles financent, par exemple, des pensions de retraite.
Oui.
Donc, si par exemple, on était capable de désindexer les pensions de retraite, on n'aurait pas. La question ne se poserait pas forcément.
Oui, le non, sujet, mais c'est sûr qu'il y a le volet retraite, mais on peut traiter aussi le volet dépenses.
Augmenter.
Mais bien sûr.
Vers les élections.
Laurent.
Bah oui, là, on paye un peu le manque de courage en matière de réforme. De l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, c'est qu'on a un modèle social qu'on ne peut pas se payer.
Bon. Et oui.
Donc, on a créé. Un modèle extrêmement complexe, très sophistiqué, et plus un modèle est sophistiqué, plus il est fragile, surtout dans un monde incertain comme le nôtre. Donc dès que vous prenez un choc, vous savez pas d'où ça va fuir, mais ça va fuir forcément de quelque part. Donc après, c'est très compliqué. En plus, comme tout est imbriqué et que en France tout est politique, hein, on a réussi à politiser l'économie au maximum. Donc tout est une question de débat, et on va avoir du mal à se mettre d'accord, alors que j'allais dire le niveau de l'eau monte et qu'on est bientôt complètement asphyxié. Donc c'est ça le sujet, si vous voulez. Si vous avez un dispositif avec un État qui, pour des raisons politiques, va dire moi je prélève énormément d'argent sur les entreprises, que ce soit fiscalité, que ce soit sur le travail, peu importe. Enfin, au bout d'un moment, c'est quand même dans la poche de ceux qui travaillent et des employeurs. C'est bien là que ça, qu'on le prend. Et ensuite, on va faire toute une usine à gaz pour le redistribuer, éventuellement même à la personne à qui on l'a pris, en disant « je t'en prends trop, mais je t'en... » Donc à la fin, évidemment, c'est exploité politiquement par des gens qui disent « vous voyez, en fait, c'est les entreprises qui nous coûtent beaucoup d'argent. » C'est-à-dire que maintenant, moi j'ai appris avec ce débat à l'Assemblée nationale que quand vous pique 100 et quand vous en rendez 10, en fait, on vous fait un cadeau. Moi, je pensais que non, mais si, visiblement, ça a été compris et c'est exploité aujourd'hui comme ça. Donc après, ça rend le débat extrêmement complexe pour un gouvernement qui veut se dire « bon, bah, j'ai bien compris que plus je tapais sur les entreprises, plus je prenais sur les salariés, bah, plus à la fin j'avais des problèmes sur mon économie globale ». Mais en face, ils ont finalement donner le bâton pour se faire battre à une opposition qui n'a plus qu'à dire « Non mais attendez, vous voyez bien, c'est le gouvernement des riches et des entreprises. » Voilà. Donc, il faut peut-être simplifier ça. Vous avez un certain nombre d'entrepreneurs qui disent « Écoutez, nous, il faut absolument maintenir toutes ces aides en ce moment parce qu'on en a besoin. Mais dans un monde idéal, on serait tout à fait d'accord pour avoir beaucoup moins d'aides, voire pas du tout, mais... un niveau de prélèvement.
C'est le grand chiffre. On baisse les impôts et on baisse les aides.
Vous faites un truc simple sur les entreprises. Tout le monde s'y retrouve. C'est lisible. Ça
fait 15 ans qu'on en parle, mais on voit qu'on a beaucoup de mal à le mettre en place. Allez, le mot de la fin sur ce sujet.
Oui, et d'ailleurs, il y avait
un autre rapport
qui faisait un peu le parallèle avec les aides aux entreprises. Cette grande effaçon, cette grande restitution. Juste pour dire que, en fait, la manière de présenter le débat, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous, tout simplement parce que on dit souvent les aides aux entreprises. Alors, les entreprises ont besoin, etc. En fait, les entreprises, c'est une fiction juridique et comptable. Derrière, il n'y a que les salariés, les clients et les actionnaires. Les actionnaires, c'est une petite partie, ils sont très mobiles, c'est une petite partie critique, mais une petite partie. Et donc, en fait, vous n'avez que les salariés et les clients. Et là, on voit très bien que derrière tout ce débat autour des aides d'entreprise, en fait, c'est le débat de la production et le débat du pouvoir d'achat. Et à nouveau, avec... entre les deux, ce qui
avec
le
avec l'État qui prend beaucoup plus que les actionnaires, dans la répartition de la valeur ajoutée aussi. Donc ça pose évidemment la question de la puissance publique. Allez, il faut qu'on avance, il est 9h52, vous êtes toujours en direct sur BFM Business, c'est les experts. On continue de débattre, d'analyser l'actualité économique. Évidemment, aujourd'hui, c'est aussi la rencontre Donald Trump-Xi Jinping qui se termine, la tournée de 48 heures du président américain en Chine, à Pékin... Évidemment, rencontre au sommet. Donald Trump qui vient de quitter la Chine sans annonce particulière au final, en tout cas sur le plan économique. Le président américain avait pourtant affirmé cette nuit avoir décroché des accords commerciaux, je cite, fantastiques, et une offre d'aide chinoise pour débloquer le détroit d'Ormuz. Bon, on ressort, Olivier, un peu déçu de cette rencontre, parce que zéro annonce au final.
Non, déçu, je ne sais pas si vraiment on s'est habitué, et les chefs d'État dans les différents sommets cherchent à faire des communiqués toujours un peu plus mirobolants, mais qui souvent dans le passé étaient parfois un petit peu artificiellement grossis, où en fait on prenait tout un tas de choses qui étaient déjà en cours, on en faisait un package, on disait regardez comment on travaille ensemble. Là on est plutôt peut-être sur du qualitatif, mais ça traduit quelque chose de positif, c'est que les deux grandes puissances en fait se parlent. C'est-à-dire, on est loin quand même du Liberation Day, où en fait, oui, on s'est invectivé des deux côtés de l'Atlantique. Là, on voit que il y a les grands banquiers, les grands financeurs américains d'un côté et les grands industriels du numérique américains de l'autre qui viennent en Chine. On voit bien les intérêts qu'il y a des deux côtés. On sait que les deux économies sont très interdépendantes, à la fois sur le plan technologique, sur le plan industriel, sur le plan commercial bien sûr, mais aussi sur le plan financier. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Au fond, on sort de cette période du début du mandat de Trump qui était, au fond, c'était la fête du protectionnisme, et là en fait on revient sur
quelque chose. Et puis un carpet bombing sur tous les partenaires commerciaux.
Et là c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on se dit pour à l'échelle mondiale c'est mieux que ces deux économies travaillent ensemble, à condition que l'Europe ne soit pas dans leur assiette et qu'elle ne se partage pas l'Europe en pâture.
Est-ce qu'il y a un gagnant et un perdant de cette rencontre, Laurent Moisson?
Alors, toujours très difficile d'analyser une rencontre qui a duré quelques jours, enfin deux jours,
hein, oui, 48
heures. C'est ça, 48 heures, avec d'un côté un président chinois qui dit rien, ou qui dit trois mots, il dit Taïwan, Taïwan et Taïwan,
oui,
hein, c'est à peu près tout.
Enfin, il a été très clair là-dessus, hein.
Il était clair.
Sur Taïwan, il pourrait aller au conflit. Hein.
C'est pas un grand loquace, et de l'autre côté, on a un président Trump qui dit tout et son contraire. Donc, si vous voulez, moi je pense que tirer quoi que ce soit des déclarations qui ont été faites pendant ces 48 heures, c'est lire l'avenir dans un mar de café. Donc dans le mar de café. Donc je pense que c'est un. On ne devait rien attendre des déclarations. Ce qui est intéressant, c'est que un, effectivement, les deux puissances se sont parlé. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Ce qui s'est passé avant, c'est quoi? C'est Donald Trump qui, comme son style l'indique en permanence, hein, qui veut faire des deals, il avait préparé cette rencontre. Il avait préparé cette rencontre comment ? En balançant un certain nombre de bombes à des alliés de la Chine. Alors, il a commencé avec le Venezuela, donc là, il a réussi, coup de maître, bravo. Il pensait faire la même sur l'Iran, ça s'est pas passé comme il voulait. Et là, en fait, il est arrivé, alors qu'il pensait arriver en position de force, il est arrivé en position de faiblesse. Parce que, un, le détroit d'Ormuz est bloqué, donc ça crée un gros problème pour l'économie mondiale, donc tout le monde se retourne vers lui en disant, mais qu'est-ce que t'as fait ? Deuxièmement, les seuls bateaux qui passent, hein, et ça a été dit ce matin, c'est des bateaux chinois, donc c'est-à-dire que la Chine a le temps. D'abord, il n'y a pas d'élection de mid-terms pour Xi, mais en plus elle tend économiquement, bon, ça va commencer à lui poser un problème le jour où ses clients n'auront plus d'argent. Donc il va falloir quand même que ce problème qui est systémique se règle. Mais vous avez là-dessus un autre élément, c'est qu'on a vu que les stocks d'armes américains,
oui,
parce que c'est un stock,
oui,
se sont vidés à une vitesse
importante. Avaient besoin d'être reconstitués.
Exactement. Donc là, c'est-à-dire que le côté très impressionnant de la démonstration américaine avec un Trump qui était très offensif, qui prenait des décisions à l'emporte-pièce comme ça, ça a tétanisé tout le monde. Il y a eu un moment de flottement. Moi, je me rappelle des premiers jours de bombardement de l'Iran où on a dit « Oh là là, tout le monde s'écrase,
oui,
ils sont en train de gagner, quel coup de maître, etc. » On voit bien que c'est pas du tout la même chose. Hein. L'Iran n'est pas tombé.
C'est pas le même morceau que le Venezuela. Ça,
c'est pas pareil. Hein, donc là, si vous voulez, la négo, elle se fait très différemment.
Oui.
Et donc, on voit bien que ça va pas être simple pour Trump. Il a des arguments. Mais en face, ça rigole pas non plus.
Ingrid.
Effectivement, la Chine est beaucoup plus difficile à lire, parle beaucoup moins, mais c'est vrai que dans le style et dans ce que ça reflète de la fébrilité côté américain, c'est voilà, ils sont venus en expliquant qu'ils allaient vendre. Et c'est vrai que ça donnait l'impression
un peu étrange. Pas grand-chose. On attendait des annonces sur le soja, sur éventuellement 200 Boeing, sur des ventes de pétrole.
Mais qui n'auraient été que des annonces. En fait, c'est ça aussi qu'il faut voir. Aussi. C'est-à-dire, en réalité, on a quand même un petit peu l'impression, surtout avec la présence de Boeing, que c'était une tournée de VRP. Et là, vous demandez, pas de réaction en face. Donc, on voit bien que l'enjeu pour le président Trump, c'est vraiment l'enjeu commercial. L'enjeu de très court terme et donc c'est très court-termiste et en réalité c'est je pense pas très stratégique de leur côté parce qu'effectivement en face il y a évidemment pas d'engagement, enfin c'est pas un deal qu'on signe sur la table,
genre,
c'est ferme pour X unités et c'est ça qui va déterminer la prospérité et l'avenir de l'économie mondiale. Donc on a vraiment l'impression effectivement qu'il y a un court-termisme économique fort du côté du président Trump.
C'est un dealmaker, Donald Trump.
Ouais, qui n'est pas du tout au service de la stratégie commerciale et de croissance à plus long terme.
Oui. Ce sera le mot de la fin pour cette première partie. Merci beaucoup. On se retrouve dans une minute. On va parler Europe maintenant et du discours tenu par Mario Draghi hier à Aix-la-Chapelle à l'occasion d'une remise de décoration. Il a eu des mots intéressants, notamment sur le commerce international. Et puis, ces jours de passation à la Fed aujourd'hui, Jérôme Powell qui passe la main à Kevin Warsh. On va voir le bilan du premier, les enjeux pour le second. Ne quittez pas, on vient tout de suite.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.